à tous. Vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres que vous pouvez retrouver sur la page de l'émission qui s'appelle aussi Radicaux Libres, mais sur un site qui ne s'appelle pas Radicaux Libres, mais non, mais Radio Alpa, puisqu'on est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. On aurait pu vous parler de vessie et de lanterne cette semaine. Les défenseurs des valeurs libérales comme la compétition, la concurrence, l'économie de marché et bien sûr l'indicateur fétiche, la croissance. Tous ces gens qui s'affichent comme socialistes, en l'occurrence Stéphane Le Foll et ses affiliés, ont décidé de présenter des candidats aux législatives. Oui, au mois de juin, il y aura des élections législatives. Ce sont les plus importantes, l'air de rien, dans l'organisation de la Ve République, puisque à partir de là découle une partie du pouvoir exécutif, en l'occurrence le gouvernement, et donc ils ont également le pouvoir législatif, celui de faire les lois. Et auquel cas, eh bien, celui qu'on présente comme le pété de la REP ou président de la République n'aurait plus qu'une voix, comment dire, consultative. Et du coup, eh ben, c'est en attendant de faire une autre société où on aurait plutôt la population qui aurait le droit non pas de déléguer son pouvoir, mais de prendre des décisions qui les concernent, qui la concernent, la population. Eh bien, on pourrait se dire qu'il vaudrait mieux que ces élections législatives 2022 soient plutôt vers la gauche. Gauche, c'est quoi? Eh ben, gauche, c'est pas du tout l'adoration de la compétition, de la concurrence, de l'économie de marché et bien sûr de l'indicateur fétiche de la croissance. Mais certains qui se disent socialistes continuent à le faire croire qu'ils sont de gauche. Eh bien, ils ont décidé cela de présenter des candidats aux législatives, donc dans 4 circonscriptions sur 5 dans la Sarthe. Seule Sophie Tolmont, qui était devenue députée quand Stéphane Le Foll, tiens encore lui, avait pris le poste de maire du Mans, n'aura pas de dissident à l'accord national passé entre les formations de gauche, hein, ELV... le Parti communiste, le Parti socialiste et la France insoumise. Ça nous rappelle évidemment Stéphane Le Foll, ah décidément, qui n'avait pas d'opposant La République En Marche dans sa circonscription lors des élections législatives de 2017. Ben oui, on ne s'oppose pas aux candidats compatibles avec nos idées. Peut-être pour ça que La République En Marche n'avait pas opposé qui que ce soit à Stéphane Le Foll. La logique voudrait alors que les membres sartois du Parti socialiste, en tant que socialiste, donc défendant avant tout la justice sociale et par exemple une répartition équitable des richesses, eh bien, il apparaîtrait évident que ces membres du Parti socialiste se reconnaissent comme plus proches du nouveau programme du NUPES que celui des libéraux de Renaissance, le nouveau nom de La République En Marche. Eh bien non, les membres du Parti socialiste sartois, qui n'affichent pas du tout leur affiliation à Renaissance, non, pas du tout, mais plutôt à leurs valeurs quand même, tirent dans les pattes de la direction nationale au risque d'empêcher les candidats du NUPES de passer au second tour. Et donc là, encore en toute logique, eh bien, en agissant comme ça, les membres du PS vont permettre l'élection des adorateurs de la main invisible du marché, censés tout réguler pour nous rendre toujours de plus en plus riches. Et les membres du PS, est-ce que c'est véritablement le but de notre vie, être de plus en plus riches? Peut-être pas. En tout cas, c'est peut-être le moment d'enlever socialiste du nom de votre parti, parce qu'en thème de valeurs, non, c'est quand même l'essentiel, les valeurs dans un groupe politique. Oui, en termes de valeurs, parti socialiste, ouais, ça tient plus. On aurait pu vous parler de la fin du monde. Ah bah, la fin du monde, elle a commencé depuis un certain temps et elle continue. La France a déjà mangé tout ce que son environnement peut lui donner. Le jour du dépassement, qui est calculé par... je l'ai noté quelque part. Voilà, Global Footprint Network. Eh bien, ce jour du dépassement a eu lieu le 5 mai 2022. Il y a donc 9 jours. Depuis, on vit à crédit. On vit à crédit dans le sens où on est en train de grignoter sur les ressources que nous avons, mais pas sur ce que la Terre peut nous donner chaque année. Donc on est en train de manger les bijoux de famille, là. Voilà, je sais pas comment vous le dire, pour parler aux bourgeois qui sommeillent en nous et qui est attiré toujours par son patrimoine, je sais pas comment vous dire que c'est dangereux. La première fois que fut calculée notre emprise sur les ressources naturelles, c'était en 1961. Et à cette époque, le jour du dépassement avait eu lieu le 26 septembre. Déjà, on était dans le rouge de plusieurs mois déjà en 1961. C'est peut-être ce qui a amené dans les années 60 et 70 un certain nombre de réflexions sur cette notion là de croissance du produit intérieur brut. Est-ce que toujours plus, c'est toujours mieux? Oui, pour un libéral, Bien sûr, mais est-ce que la philosophie libérale est le choix des familles? On peut se poser la question, c'est surtout le choix de ceux qui se font passer pour nos représentants. L'idée est de chiffrer l'empreinte écologique, c'est-à-dire la quantité de surface nécessaire à un humain pour s'alimenter, se déplacer, se loger, etc. Répondre à ses besoins. Et de rapporter nos besoins à la biocapacité du territoire, c'est-à-dire à la capacité des écosystèmes à se renouveler et donc à nous fournir de quoi satisfaire nos besoins. Le Global Footprint Network ramène tout ça pour une personne et voilà comment on découvre que si tout le monde gaspillait comme des habitants de la France, eh bien il faudrait 2,9 planètes. L'an prochain, s'il existe cet an prochain, on fera encore pire. Chaque jour qui passe durant lequel on continue sur notre lancée, eh bien chaque jour qui passe où nos soi-disant représentants nous poussent à produire plus pour gagner plus et parfois ce n'est même pas assez pour subvenir à nos besoins de base, chaque jour qui passe où l'idéologie du plus c'est mieux triomphe pour le plus grand bonheur de mégalo se faisant passer pour la voix du peuple, ça nous amène vers la fin. C'est à nous d'inverser la tendance. Oui, bah oui, tout simplement par des gestes comme ne plus céder à l'achat plaisir. Ça sert à quoi d'essayer de compenser la vacuité de nos vies en achetant des trucs qui nous servent pas? Il apparaît que, alors ce sont des statistiques, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est du déclaratif. 10% des vêtements achetés lors des soldes ne servent jamais. Ah ben, faut vraiment avoir des petits soucis quand même dans sa vie pour s'acheter des trucs dont on se sert pas. Donc ne plus céder à l'achat plaisir, tiens, ça fait déjà un truc. On pourrait déjà, par des pratiques comme la consommation de la nourriture qu'on achète, l'utilisation des restes, cessons de mettre du pain et à la poubelle. Non mais attends, on est où là? Ça pourrait être aussi par des prises de position. Tiens, comme par exemple celle des étudiants d'AgroParisTech, c'est-à-dire l'Institut National des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement, de futurs ingénieurs agronomes qui ne veulent plus simplement servir les lobbies et même appelle à déserter la recherche scientifique qui montre une fausse voie de sauvetage. Tiens, on les écoute.
Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant.
AgroParisTech. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, développer des énergies dites vertes qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qu'ils masquent sont scandaleux. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs. Et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter.
Nous nous adressons à celles et ceux qui doutent.
De fait, si le sujet vous intéresse, comme vous avez pu entendre, certains parlent carrément de désertion, eh bien l'ensemble du message est sur insolentiae.com, insolentiae.com. com. Oui, sur les, enfin dans les télés, etc. On parle pas de la désertion. Hein. Non, non, non. On prend le tout début du message où la jeune femme dit ouais, non, nous on n'y croit pas à tous ces trucs-là. Ouais, on n'y croit pas, mais ça implique des actions, ça implique des pratiques. Donc de fait, si le sujet vous intéresse, insolentiae.com, appel à la désertion des étudiants d'AgroParisTech. Cette séquence de 8 minutes à peu près est noyée dans 2h30 de cérémonie de remise des diplômes, puisque c'est à ce moment-là qu'a été faite cette intervention. Une catastrophe, hein, où franchement on nous dit « Eh, la technique, bah, bien sûr qu'elle est neutre. Et la technique, bah, bien sûr qu'elle va nous sauver. Et la technique, bah, il va falloir y aller, les gars. Allez, vive le futur !» À propos de technique, on vous prépare un petit quelque chose sur Monsieur Ellul, Jacques Ellul, qui parlait justement de la technique, où on a un petit peu de mal à terminer. Il faut dire que l'actualité en ce moment est quand même un petit peu prégnante. Mais ça nous parle de technique, et ça nous parle du fait que peut-être qu'il faudrait un petit peu voir ailleurs qu'à l'extérieur, mais peut-être à l'intérieur de nous-mêmes. C'est l'un des fameux personnalistes avec Monsieur Charbonneau, dont on a déjà parlé, mais je crois déjà la saison dernière, où ça ne nous rajeunit pas. Mais je vous rappelle que tous ces gens existent et qu'ils avaient des pensées qui ne correspondent pas tout à fait avec ce qu'on entend à longueur d'année dans les médias. Et c'est justement pourquoi ça s'appelle Radicaux Libres. On se souviendra aussi de quelqu'un dont on a parlé l'an dernier, oui, et qui s'appelle Alexandre Grothendieck, qui est un mathématicien célèbre qui appelait déjà à déserter dans les années 70 pour ne pas travailler pour l'armée. Quand il parlait de déserter, c'était déserter la recherche scientifique. Donc de fait, le groupe Grothendieck existe, eux aussi parlent plutôt des low-tech plutôt que de la high-tech, le but n'étant pas d'être asservi à la technique, mais plutôt d'utiliser des techniques qui pourraient, par exemple, est à hauteur humaine. Donc du coup, ça résiste, et ça résiste heureusement parce que chaque seconde compte, parce que chaque seconde de gaspillage compte et que ça continue. Eh bien, il y a des soulèvements de la terre, entre autres, qui appellent à un charivari contre l'artificialisation de terres agricoles à la zone à patates de Pertuis. On est dans le Luberon les 14 et 15 mai. Alors, dépêchez-vous parce que c'est un petit peu loin et puis va falloir y aller dès maintenant. Je vous rappelle que cette zone à patates a des petits problèmes, des dizaines d'hectares, 80 et quelques de terres agricoles sont menacés par l'extension d'une zone d'activité économique où vont pousser des hangars, ouais, pour des activités qui, en tout cas, ne seront pas aussi importantes que de produire de la nourriture. Eh non, c'est pas possible. Je rappelle qu'on en a besoin tous les jours. Pour en savoir plus, parce que c'est toujours mieux d'être informé pour se faire un avis, Zapertuis, zapertuis.noblogs, comme ça se prononce, .org, ou lessoulèvementsdelaterre.org. On aurait pu vous parler de la patrie des droits de l'homme, oui, qui expulse des sans-papiers, entassés dans des camps de fortune, en lacérant les tentes, en détruisant les affaires personnelles, en oubliant toutes les règles de procédure et tous les droits que pourraient avoir les expulsés. L'ensemble de ces faits a été rappelé à l'occasion d'un procès tenu au tribunal judiciaire de Dunkerque mardi 10 mai. Ce procès oppose 600 papiers qui contestent leur expulsion et la destruction de leurs biens et qui réclament 1500 euros à la commune de Grande-Synthe dans le Nord. L'ensemble de ces faits a été encadré par les forces de l'ordre, les autorités administratives qui donnent le droit d'utiliser les forces de l'ordre, et donc encadré par le gouvernement qui est chargé de vérifier l'action des préfectures. Quand des collectifs, des individus, des associations parlent du racisme de l'État, pas de racisme d'État, mais du racisme de l'État dans les faits, pas dans les lois, mais dans les faits, eh ben, ce ne sont malheureusement pas des paroles en l'air. Le verdict sera rendu le 12 juillet. On aurait pu vous parler de tout ça, mais finalement, on a préféré vous parler d'autonomie. Et ça commence comme ça.
Bon, on va commencer. Bonjour à tous. Bienvenue. Je suis très, très heureuse de vous accueillir. Je suis Pelasco. Un des membres de l'association Écolieu 72 et un des organisateurs, prises de cette table ronde. Je voudrais vous remercier d'être si nombreux, ça fait très plaisir.
d'être si nombreux, parce que mercredi 11 mai, à l'auditorium du Carré Plantagenêt, musée Jean-Claude Boulard, oh ça devient long, une soixantaine de personnes a assisté à une table ronde organisée par l'association Écolieu 72. La rencontre était introduite par Thérèse Combe, membre de l'association Écolieu 72, cette association qui a pour objet, je cite, « la promotion et le développement de nouvelles formes d'habitat de type écologique, groupés, coopératifs et solidaires ». La table ronde du 11 mai, qui regroupait des promoteurs, aménageurs, bailleurs sociaux et habitants, s'intitulait « L'habitat participatif ». Pour qui, pourquoi, comment? À cette occasion, nous y avons donc rencontré Thérèse Combe, qui nous donne déjà une petite définition de ce qu'est l'habitat participatif, qu'on appelle aussi partagé, coopératif, etc., etc.
Effectivement, il y a beaucoup d'adjectifs parce qu'en fait, il est très divers. Le mot officiel, c'est habitat participatif, qui a été reconnu par la loi Allure, et c'est une façon d'habiter en collectif, tout en ayant chacun sa propre surface. Privative, mais partage de surface collective, c'est-à-dire des communs, donc une salle commune pour se voir les amis et faire des réunions, faire des fêtes. Une chambre d'amis pour éviter d'avoir trop de surface chacun, donc ça économise aussi les surfaces. Il y a beaucoup de la notion d'économie dans l'habitat participatif. Économie d'énergie, économie d'argent aussi, puisqu'on met beaucoup de choses en commun, beaucoup de matériel, beaucoup de force aussi. On essaie de se réunir régulièrement aussi pour que la vie de groupe soit vivante, vraiment. On fait des choses ensemble. Maintenant que les travaux sont finis dans notre groupe, on essaie de se retrouver régulièrement pour partager un repas ou pour des petits chantiers, il y a encore des petits chantiers à faire, ou voilà, pour des fêtes, pour chanter ensemble, pour aller se promener ensemble, pour organiser des choses aussi ouvertes vers l'extérieur, parce que c'est pas du camp à soi, c'est pas fermé, c'est des habitats qui sont ouverts à l'extérieur. Nous, on fait partie du comité des fêtes de notre village, donc on organise des choses avec les gens du village aussi, hein. Ils habitent c'est pas loin. Donc voilà, on essaie aussi de répandre aussi des graines de solidarité et de citoyenneté autour de nous, voilà.
Thérèse Combe habite à Fès, dans le projet intitulé Casaco, avec un K, qu'on peut visiter d'ailleurs, renseignements pratiques sur le site de Écolieu 72. Vous n'allez pas le croire, ça s'écrit écolieu72.fr. Ah oui, ben ils n'ont pas cherché plus loin. C'est à partir de là, et les autres habitants disent-ils donc des graines de solidarité et de citoyenneté pour réutiliser ces mots? Car le fait de partager un habitat revient aussi à choisir des valeurs. Un habitat choisi pour choisir des valeurs, mais lesquelles? On écoute toujours Thérèse Combe.
Les valeurs de base, c'est le collectif, hein, le collectif, la solidarité, l'aide à son voisin, l'aide aux plus fragiles. Et puis les valeurs d'écologie sont très fortes aussi. Hein, les valeurs de liberté aussi, parce qu'on revendique vraiment notre liberté dans ce collectif. C'est pas un collectif étriqué et triste. Hein, c'est un collectif ouvert, généreux. Toutes ces valeurs, effectivement, sont assez basiques pour rentrer dans un habitat participatif. Il faut avoir envie de collectif, tout simplement, et puis avoir envie de bien le vivre, quoi.
Vous avez dit qu'il faut s'acculturer. Qu'est-ce qu'il va falloir désapprendre, justement?
Ben, plein de choses. Déjà, l'individualisme, premier lieu. apprendre à devenir des vrais citoyens actifs. C'est-à-dire, on prend en charge quand même son habitat, c'est pas rien. Comme on peut prendre en charge son alimentation. Enfin, c'est un peu le même. C'est des choses basiques, mais qu'on s'est fait voler par l'économie et les marchands, quoi. Donc en fait, c'est une réappropriation de tous ces biens que l'on a en nous, mais qu'on avait oubliés. Donc on réapprend effectivement à construire. Il y a une part d'autoconstruction dans certains habitats, pas dans tous. Il y en a qui sont complètement construits par des professionnels. Nous, dans notre habitat, il y a une part de professionnels et une part d'autoconstruction. Donc on organise des chantiers participatifs. C'est l'occasion d'inviter les amis, la famille à venir nous aider. C'est très sympa. Donc voilà, effectivement, il faut apprendre plein de choses. Mais voilà, c'est intéressant. Et puis, on n'apprend pas tout non plus. On en laisse aux professionnels, heureusement. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie aussi. Mais on les choisit, les professionnels aussi. On choisit des professionnels qui veulent bien travailler avec nous aussi. Hein, parce qu'on met notre nez dans leurs affaires. Hein, parce qu'on veut que ce soit de la qualité, hein, environnementale et de confort aussi. Hein, on veut un peu tout à la fois. On veut le meilleur, en fait, pour nous. Donc, selon les moyens qu'on a, on fait plus ou moins dans l'écologie, parce que ça coûte encore cher, malheureusement. Ça coûte encore cher de construire des bâtiments corrects, propres, et qui ne polluent pas.
Vous disiez être citoyen, justement, ça s'appelle habitat participatif. Vous disiez mettre votre nez sur le chantier. C'est en effet se considérer comme responsable du début jusqu'à la fin du projet.
Ah oui, tout à fait. Ça, à ce niveau-là, ça apprend la responsabilité, hein, effectivement. Oui, parce que c'est quand même des habitats qui sont longs à mettre en place, qui demandent beaucoup d'énergie, d'argent aussi. Donc on veut que ça dure. Et on apprend aussi à être citoyen, à vivre ensemble, sur notre lieu de vie. C'est tout un apprentissage aussi. Pour que la vie soit agréable, il y a forcément des conflits. Les conflits arrivent, il faut savoir les gérer. Et accepter d'être mis en cause, accepter de revoir ses positions, discuter.
On se rend compte responsable et soi-même, mais avec d'autres. Waouh ! C'est pas du tout ce qu'on nous propose en ce moment. Tout en retrouvant une autonomie, se réapproprier des savoirs et la capacité de décider de son lieu de vie. Pas seulement comme un donneur d'ordre, hein. Tiens, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Non, c'est pas celui qui a la thune. Et qui dit, mais non, on met aussi la main à la pâte. Alors rentrons dans le dur, comment on fait ? Quelles sont les différentes étapes ? Devinez, c'est toujours Thérèse qui nous répond.
C'est tout un travail. Déjà, il faut apprendre à se connaître, choisir ses voisins, savoir si on peut essayer de s'entendre sur le long terme. Déjà, c'est un premier travail qui est assez difficile, mais qui est intéressant aussi. Et après, effectivement, il faut monter le projet ensemble. Donc, il faut aller chercher les informations. Parce que maintenant, depuis déjà quelques années, il y a tout un réseau qui s'est construit, des professionnels qui se sont spécialisés dans ce domaine et qui maintenant aident les habitants à monter leur projet, de façon à ce que ça aille plus vite et puis que ce soit plus sécurisé aussi, parce que c'est quand même très technique. Hein. Bon, au niveau de la déconstruction aussi, il y a des gens qui sont capables de nous aider. Il y a des AMO, des architectes qui connaissent bien l'habitat participatif. Donc il y a tout un réseau, alors dans nos départements, mais aussi en Bretagne, il y a HPO, Habitat Participatif de l'Ouest, avec lequel nous sommes en réseau, qui a des organismes professionnels pour aider les habitants.
Au niveau juridique, comment ça fonctionne, puisque vous êtes un ensemble de trois familles sur un même lieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une société, on crée une coopérative? Comment ça fonctionne?
Alors, il y a différents sortes de montage. Il y a effectivement les coopératives d'habitants. On va en parler cet après-midi à la table ronde. Il y a les sociétés civiles d'investissement et d'attribution. Alors, nous, c'est pareil, c'est plus simple parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, en fait, on était deux personnes à acheter, deux acheteurs. Donc, on a acheté chacun nos surfaces. Et puis, le collectif, il est en indivision entre les deux acheteurs. C'est tout simple. Voilà, c'est la formule vraiment la plus simple qui puisse exister dans ce genre de... Et puis, la troisième famille, elle est en location, en fait. Voilà. Et puis plus les locataires de passage.
Donc vous recevez un loyer en tant que propriétaire?
Tout à fait. Oui, chacune, on a une part de loyer qu'on se partage, en fait, voilà, parce que le collectif est en indivision. Donc,
Et les réunions de copropriété, ça va, ça se passe bien?
Pas de syndic, pas de réunion compliquée, non, pour ça, c'est cool. Hein.
Se choisir, ça rend déjà les choses un peu plus faciles. Alors la loi Allure, eh ben, il faut l'éplucher. Mais d'autres l'ont fait avant. Des montages juridiques et financiers, mais d'autres se sont spécialisés. Donc, si un projet émerge, eh ben, on n'est pas tout seul. Et par exemple, il convient de contacter, dans le coin, l'association Écolieux 72, dont l'objet est justement de promouvoir ses habitats. Sur un site internet, écolieux72.fr, ou alors en vrai, à l'épicerie sur le Zing, ceux qui ont connu un Saint-Jean d'hiver, c'est à la place. 45 avenue de la Libération, où une fois par mois se tient une permanence. Et la prochaine aura lieu mercredi 18 mai de 13h, de 17h30 à 19h. Pour savoir s'il vaut mieux créer une SCA, une SKIC ou une coopérative ou autre chose. Deux projets sont d'ailleurs en cours. L'un à Coulaines, l'autre au Mans. Ils cherchent peut-être encore des habitants. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc l'épicerie sur le Zing, avenue de la Libé. Une fois par mois se tient une permanence de Écolieux 72. Et là, c'est mercredi 18 mai, 17h30, 19h. Habiter ensemble, c'est pas toujours facile. Alors comment savoir si sur la durée, la relation ne va pas se dégrader? Si cette possibilité existe, elle n'est pas fatale et il existe au moins des moyens d'y faire face.
Alors nous, c'est relativement simple parce qu'on n'est pas nombreux. On est un habitat de trois familles. Nous sommes sept personnes en tout. Les conflits, pour l'instant, il n'y a pas de gros conflits. Il y a des frottements, il y a des accords. On est tous un petit peu familiarisés à la non-violence. à la façon de communiquer non violente, mais sans avoir fait vraiment des formations spécifiques. Mais on sait ce que c'est et on fait des efforts pour qu'on ait des échanges justement pacifiés, quoi. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin d'utiliser des outils extérieurs, mais il en existe des outils. Hein, on peut faire appel à des professionnels aussi de ce côté-là pour que la vie de groupe redevienne agréable s'il y a eu des cassures, des difficultés graves.
Déjà faire des efforts, Thérèse parlait dans un autre son de savoir se remettre en question. La bonne volonté aide déjà à vivre ensemble. Nous voilà à milieu du narcissisme ambiant dans lequel des seuls au monde revendiquent toujours le droit à être entendus et exaucés quand ils ne cherchent même pas à écouter un autre son de cloche. Et puis, des médiations peuvent être utilisées, rien d'insurmontable semble-t-il. En tout cas, les conflits potentiels ne doivent pas servir à disqualifier l'habitat participatif. Et d'ailleurs à tout ce qui est participatif. Les animaux sociaux que nous sommes, sont bien sûr des individus, mais peut-être peuvent être aussi des individus sympathiques, c'est-à-dire autant attentifs à eux-mêmes qu'aux autres. Pour dépasser la pente savonneuse du modèle de l'égoïste grégaire décrit par Danny Robert Dufour, des égoïstes grégaires qui se croient libres quand, de fait, cette liberté consiste seulement à jouir des marchandises proposées par le marché. Ah oui, mais j'ai le choix dans les marchandises, c'est bien. On a tellement d'autres choses à faire ensemble que la queue pour acheter les mêmes produits ou nous satisfaire des mêmes services. Je vous rappelle donc l'adresse écolieu72.fr avec un onglet liens et bibliographie pour devenir pointu sur le sujet et même vous renseigner sur ce qui se passe dans le reste de la France. Et la permanence du 18 mai entre 17h30 et 19h à l'épicerie sur le Zinc, avenue de la Libé. Laissons la conclusion à Thérèse.
Moi, j'ai envie d'encourager les gens à cet habitat qui est quand même très respectueux de l'environnement. C'est quand même un des problèmes graves de notre société. Et à le faire à plusieurs, c'est encourageant. Parce que tout seul, on est vite perdu. Hein. Moi, toute seule, je ne suis pas capable de faire grand-chose. Mais alors, avec d'autres, je transforme les montagnes. Hein. C'est vrai, on arrive à vivre agréablement tout en vivant d'après nos idées, quoi, en cohérence avec nos idées. Ça, c'est très important pour moi.
Tiens, puisqu'on parlait de réappropriation, le dimanche 15 mai, un nouveau lieu ouvrira bientôt ses portes près de chez vous, un centre social culturel autogéré, quartier de Pontlieu. Ça s'appelle l'Allumette. On avait rencontré les gens qui le promouvaient et qui le promeuvent encore l'an dernier. Bah, ça y est, ils ont trouvé, ça se fait, c'est parti. Les chantiers sont en place, des chantiers participatifs, bien sûr. Donc le dimanche 15 mai, entre 11h30 et 15h, sur les bords de l'Huisne, au bout de la rue du Bourbon, face au pont des Vendéens. Venez rencontrer les gens qui construisent l'allumette, parce que cette allumette, c'est autogéré, il y a des initiateurs, mais l'idée, c'est que les gens fassent des choses ensemble. Donc, pour en savoir plus, présentation de l'allumette qui aura pour but de proposer une cuisine solidaire, des conférences, des débats, une bibliothèque, un bar associatif mis à disposition, de salles de réunion, des cours de langue, des cours de tricot, des cours de je ne sais pas trop quoi, des échanges de savoir surtout et voir le reste, tout ça, vous pouvez donc vous rendre dimanche 15 mai entre 11h30 et 15h au bout de la rue du Bourbat, face au pont des Vendéens, là où des ventrachoux n'ont jamais été assassinés et n'ont jamais perdu une bataille en 1793. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça s'appelle quand même le pont des Vendéens. En tout cas, c'était pas celui-là. Et les chantiers participatifs, ça se passe comment? Ça a commencé, oui, ça a commencé déjà. Et donc, c'est tous les mercredis de 14h à 21h et tous les samedis de 10h à 18h. Et il y aura une grosse session pendant le week-end de l'Ascension. Merci mon Dieu, je pourrais dire. Donc le 26, 27 et 28 mai, les 26, 27 et 28 mai, les travaux sont donc ouverts. Alors pour pouvoir savoir, je vous propose d'abord de venir le dimanche 15 mai entre 11h30 et 15h, face au pont des Vendéens sur le bord de l'Huisne. Et puis sinon, il y a une adresse internet, l'allumettelefeu@libremail.net. l'allumettelefeu@libremail, comme ça se prononce, .net, l'allumettelefeu@libremail.net. Et puis là, c'est une adresse pour avoir la lettre d'info et connaître le lien du tableau en ligne pour s'inscrire et organiser les travaux, parce que c'est un framacalque, mais là, maintenant. Aucune compétence particulière n'est nécessaire, hein, plein de choses sont à faire. Et là, je cite, hein, comme décoller des moquettes, repeindre des murs, casser des cloisons, refaire de nouvelles, poser du parquet, démonter des trucs, refaire la plomberie, l'électricité et plein d'autres choses. Donc, faut venir avec des éléments de protection comme des gants et des lunettes, même si il y a du matos là-bas. Des chaussures plutôt costaudes, hein, parce que si un truc vous tombe sur le pied, bah, ça fait mal. Et des outils, même si les organisateurs ont déjà du matos. On peut se renseigner auprès de l'adresse que je vous redonne, l'allumettelefeu@libremail.net. Et sinon, bah, dimanche 15 mai à 11h30, 15h, sur les bords de l'Uine, au bout de la rue du Bourba, face au pont des Vendéens. Eh ben, je crois qu'on en a terminé là. Réapproprions-nous un petit peu les lieux, nos lieux de vie. Ouais, ça évitera d'attendre quoi que ce soit de ceux qui se font passer pour nos représentants. En attendant, eh ben, je vous dis tout simplement, en espérant qu'une semaine prochaine existe, allez, au revoir.